Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut à toutes, et ravi de vous retrouver avec mon compère et ami Jean-Pierre Fleury. Aujourd'hui, en dehors des volcans, les hommes, vous le savez, doivent faire face à de nombreuses autres menaces naturelles, comme les tremblements de terre, les tempêtes, les cyclones, les inondations, les sécheresses, les raz-de-marée, les avalanches, j'en passe, et des plus graves. Nous allons évoquer justement ça, nous verrons qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe naturelle. Nous allons parler aussi des termes juridiques concernant ces catastrophes naturelles, le tout orchestré par Stéphane Cazalong et par Théo.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, bonjour.
Comment il va bien ?
Ben, ça va pas si mal que ça, disons pas. Il n'y a rien de catastrophe.
Il n'y a rien. Alors, une catastrophe naturelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une catastrophe qui résulte évidemment d'un événement naturel. Donc, on a parlé de séisme.
Ça commence bien.
Voilà, donc ça c'est fait. Au revoir, merci d'être venu. Séisme, il y en a quelques-uns. Des éruptions volcaniques, il y en a quelques-unes.
Oh, oui,
des tsunamis aussi. Hein? Alors ça, c'est tsunami, c'est arrivé. Les gens ont pris conscience que c'était qu'un tsunami, malheureusement, avec ce qui s'était passé en Asie. Les inondations, malheureusement, se succèdent et c'est abominable ce que l'on voit maintenant sur les chaînes info. Et puis, bien sûr, les cyclones, les orages. Avec les cyclones, le dernier, c'était
Adrien. La liste est longue.
Oh là là.
Alors kata, c'est un terme péjoratif qui vient du grec, qui veut dire aller vers le bas.
Hein. Bon,
strophe, retournement, c'est-à-dire tout va mal, on a fait un tonneau, on est resté sur le toit. Ça veut dire en gros que la nature, là, ce qui va nous intéresser, la nature se déchaîne. Bien qu'il y ait toutes sortes de catastrophes maintenant, dans le vocabulaire en tout cas, puisqu'elles peuvent être naturelles, on l'a dit, elles peuvent être sanitaires, économiques, financières, et pourquoi pas radiophoniques.
Aussi.
ou éditoriales.
Aussi.
On va voir.
Aussi.
Tout est possible.
Vous savez, alors, Jean-Pierre, vous dites ça, vous avez raison de l'évoquer, sur les termes. Pendant, je vous dis ça pourquoi. J'ai entendu un terme qu'on utilise maintenant, qui est rentré dans le langage courant, mais c'est pas bien l'utiliser. Quand j'entends des gens dire, on est pris en otage. Les avions, SNCF. Non, une prise d'otage, c'est autre chose qu'il y a un train qui n'est pas arrivé. Quoi. Voilà, je referme la parole.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Maintenant, on est dans un monde de superlatifs, on ne sait plus quoi faire. Les mots n'ont plus de valeur. Mmh. Bon, simplement dans la politique, quand on parle de fascisme, il faudrait avoir un petit peu de. Hein, se souvenir réellement ce que ça voulait dire.
Exact.
De SS et autres. Bref, nous avons la chance, effectivement, de ne pas avoir connu ces catastrophes-là.
C'est vrai, c'est
vrai. Ce qu'il faut savoir, bon, cataclysme, catastrophe, d'ailleurs, il y a des mots, il y a petite et grande catastrophe, d'ailleurs. Vous vous souvenez, dans le petit enfant qui vient de café, qui n'aurait pas dû, on se demande si c'est la petite ou la grande catastrophe.
C'est vrai.
Et l'enfant répond, non, c'est pas la cacastrophe, c'est la pipistrophe.
La pipistrophe, hein,
c'est mignon, ça. Hein, ça fait
le
même
raison. Ça fait du bien.
Bon, on va souligner quand même que, effectivement, c'est les catastrophes naturelles, c'est quand même la Terre qui se fâche. Alors qu'il se fâche, bon, apparemment contre les hommes. Mais est-ce qu'elle a quelque chose à faire des hommes, justement? Je ne pense pas. C'est pas juste pour nous embêter, c'est parce que c'est comme ça.
Qui reprend ses droits.
Et que c'est comme ça depuis le début. Parce que la Terre, telle qu'elle est là, elle est issue d'un cataclysme.
Oui.
Le Big Bang, on peut pas dire que ce soit pas catastrophique dans son essence. On imagine l'agression, la concrétion et autres, l'agrégation de tous ces éléments qui viennent. La soupe originelle, c'était plutôt l'issue d'une. C'est comme ça qu'on pourrait voir une issue catastrophique à notre monde actuel. C'est-à-dire, c'était de la lave en fusion, c'était du soufre qui sortait, c'était des gaz méphitiques, c'était toutes ces choses. C'était absolument catastrophique. Donc la notion de catastrophe, elle est constante. On peut y ajouter, là, effectivement, dans le dictionnaire, ou en tout cas dans les dictionnaires juridiques, il faut que ce soit subi. Hein. Quand je dis subi, rapide. C'est subi et subi. Hein. C'est un T santé.
Est-ce que le cas des inondations, par exemple?
Les inondations, oui, mais bizarrement, la sécheresse, non.
Ah oui, c'est vrai.
La sécheresse, c'est sournois. Oui. Ça s'installe, on s'en aperçoit pas.
Et c'est sur la durée.
Alors que les inondations, c'est la chose, avec la tempête, c'est des choses qui sont absolument terribles. Surtout les inondations chasse d'eau qu'on va évoquer tout à l'heure certainement. C'est-à-dire que vous êtes inondé, le lendemain matin, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, c'est vrai.
Sinon, tout est foutu.
Le tremblement de terre aussi, les tremblements de terre sont subis.
Les tremblements de terre sont subis. Il n'y a que la sécheresse qui est beaucoup plus sournoise, qui arrive comme ça, on s'en aperçoit pas. Elle s'est installée, elle a pris ses aises, ça fait déjà 2 mois qu'elle est là, et c'est simplement au bout de 2 mois et quelques jours, on dit tiens, il fait sec.
Ouais, c'est vrai.
Alors, La définition, justement, c'est un élément brutal qui bouleverse le cours des choses en provoquant souvent la mort et la destruction. Voilà, c'est tout. Oui. La liste, vous avez commencé à la faire, on va peut-être pas parler de tout, parce que j'étais un peu démoralisé en parlant de tout ça.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça reste naturel. Mais ça reste naturel, donc
on réécoutera l'émission sur le vin.
Oui, ça nous fera du bien.
Ouais. Alors, celles qui viennent de l'eau, hein, les raz de marée, les tsunamis, les déluges, et puis aussi... Et à l'inverse, il y a toujours les deux, c'est-à-dire c'est annexé dans un sens ou dans l'autre, général. Ouais. Il y a la sécheresse. Mais une petite remarque, le désert, il est adapté à la sécheresse. Hein. S'il pleuvait normalement pendant 10 ans, hein, c'est-à-dire la pluviométrie qu'il y a en Vendée sur le désert, ce serait une catastrophe naturelle.
Oui, mais ce serait positif.
Parce que, oui. Bah oui. Et non, ce serait positif.
Ce serait un bouleversement.
Pour la vanité humaine qui pourrait aller planter ses choux là-bas. Mais ce serait une catastrophe pour les vipères des sables. Ce serait une catastrophe pour les insectes qui vivent là-bas. Pour les quelques plantes qui vivent de la parcimonie en humidité, elles crèveraient si c'est pas du riz qui pousse là-bas. Ouais, donc ce clair. Serait une catastrophe naturelle. Donc c'est pour ça qu'il faut justement à chaque fois se dire c'est par rapport à quoi que c'est une catastrophe. C'est le vent, pourquoi pas. Alors on l'a évoqué tout à l'heure. Là, c'est certainement un des trucs les plus. Lorsque le diable a inventé ça, il était en forme, parce que il y a pas de vent. Il y en a plus. Tout est cassé. Et après, vous savez, après une tempête, on a toujours l'impression que la mer, hein, qui est soi-disant, il faut l'aimer, que si on est un homme libre, d'accord. Mais je pense que celui qui a dit ça, c'est Baudelaire. Mmh. Il a navigué quand même.
Chérir la mer.
Ouais. C'est une drôle de fiancée qu'on a à chérir là, cette mer-là, parce que non seulement elle mange ceux qui les aiment, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle est moqueuse, parce que il y a un coup de vent, elle va être extrêmement méchante, elle va manger ses amants, et puis le lendemain elle va se refaire toute douce. Hein, le vent a disparu, vous voyez comme je suis belle. Et c'est effectivement tant mieux qu'il n'y ait pas plus de que ce soit pas marqué, mais ça s'oublie vite. Il y a les excès de vent, mais aussi quelque chose qui est terrible, c'est la pétole. N'oublions pas que Monsieur Magellan a failli mourir parce qu'il n'a pas trouvé de vent dans le Pacifique.
C'est vrai aussi.
Et oui, toujours une histoire d'excès. C'est le feu. Alors les incendies, c'est quelque chose de terrible. On le sait ici. C'est une plaie. Mais ces incendies, il faut savoir aussi que il n'y a pas que du négatif. Alors attention, hein, je ne parle pas du gars qui a perdu sa bergerie, etc. Ouais, ça, c'est... Mais dans des endroits naturels, en tout cas, certaines plantes sont faites pour leurs graines germent parce que le feu est passé dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine température, 50-60 degrés, pour que ça puisse germer. Autrement, c'est clos dans l'écorce, dans l'amande. Et alors, pourquoi ça? Parce que si ça sortait comme ça tous les ans, dès qu'il y a un petit peu de flotte, parce qu'il pleut aussi dans ces endroits-là, ces graines sortiraient, mais elles n'iraient pas loin, puisqu'il y aurait encore au-dessus les grands arbres. Le processus, il y a le feu, les grands arbres disparaissent, les nouvelles graines sortent et peuvent avoir la lumière, alors qu'elles ne l'auraient pas s'il y avait les grands arbres. Donc, c'est encore une fois, c'est une.
Mais vous parlez d'incendie, Jean-Pierre. Il y a des incendies qui sont dus de manière naturelle, malheureusement, parce qu'il y a le réchauffement climatique, probablement, parce que quand on voit ce qui se passe, on avait parlé de ces grands incendies dans des territoires américains immenses ou au Portugal. C'est pas forcément le malade qui a claqué l'allumette, quoi.
Ça, bien
c'est,
sûr, non, non, mais ce qu'il faut, il y a des grands incendies, je pense qu'il y en a eu tout le temps. On va souligner une chose tout à l'heure aussi, pour éviter un petit peu le catastrophisme, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a des observateurs partout.
Partout, voilà.
Hein. Avant, quand la forêt amazonienne cramait, quand la Patagonie cramait, quand l'Indonésie cramait, quand, etc., etc., on ne le savait pas.
C'est vrai.
Maintenant, il y a des gens sur place qui immédiatement vont prendre leur Facebook, vont faire une photo. On va se servir de photos qui ne sont pas les bonnes, parce que rappelez-vous, lorsque l'Amazonie a cramé, elle crame toujours, elle cramera toujours, elle brûlera. Cramer, ce n'est pas péjoratif, mais elle brûlera. On s'est servi de photos qui n'avaient rien à voir. On montrait des espèces de singes qui avaient peur, qui sont des singes asiatiques.
Oui, c'est ce que vous m'aviez
donc
dit.
Donc effectivement, alors c'est pas... Encore une fois, j'ai rien dit.
Cela dit, Jean-Pierre, les phénomènes de déforestation dans l'Amazonie peuvent participer aussi à ces incendies.
Bah, évidemment, bien sûr. Voilà. Non, mais quand ils participent, avec une allumette,
oui.
Évidemment.
Il y a 1500 ans, à mon avis, il devait y en avoir moins, quoi.
Il y en avait beaucoup moins parce qu'on ne voulait pas forcément avoir des steaks de soja à pas cher.
Voilà.
Il faut savoir aussi que c'est nous, en même temps, qui allumons les incendies là-bas, si j'ose dire.
Allumer le feu.
Les tremblements de terre. La tectonique des plaques.
La tectonique des plaques. Ouais, alors là...
Eh bien, sans la tectonique des plaques, il n'y a pas les Alpes. Hein, et sans les Alpes, il n'y a pas la Corse.
Et oui, et puis la Corse se détache par rapport à ça aussi. Sinon, elle est toujours coincée dans le
domaine. Non. Alors là, je le dis avec énormément de précaution, c'est que la tectonique des plaques fait que la côte africaine est en train de regagner la côte européenne. Donc la Corse se rapproche du continent.
Africain.
Non.
Européen, bien sûr.
Là-haut, là.
Rappelez-vous, lorsque nos anciens disaient le doigt accusateur de Gênes. Quand on regarde la Corse, on est bien dans le golfe de Gênes, le Cap-Corse.
Exactement. Il y a 18 millions d'années, ça n'a rien à voir avec la tectonique des plaques. D'ailleurs, la tectonique avait eu lieu déjà bien avant. Ça a commencé à détacher. L'axe Corse-Haussarde et Kabylie, pas oublier qu'il y avait la Kabylie là-dedans, s'est détaché. Et en faisant un mouvement en même temps, environ à 90 degrés, donc le Cap Corse avait le nez dans le golfe de Gênes. Et tout ça est descendu comme ça. Mais la tectonique, justement, c'est intéressant de le dire, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre un petit peu partout, avec des zones de faille. On va voir que la Corse a la chance de ne pas être... Alors, ça lui passe au ras des moustaches, si j'ose dire, parce qu'il y a une tectonique des plaques, des risques sismiques importants à Nice. Et on sait aussi qu'il y en a en Italie, qu'il y a des zones volcaniques énormes tout près d'ici, à 400 km du côté de...
Mais ça bouge de temps en temps ici, hein. Ça bouge à
de manière rien du tout, quasiment.
Non, rien. Mais...
On reviendra, on va donner les chiffres tout à l'heure. C'est quasi...
Il y a des bouteilles qui font bling 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 des fois.
Oui, ça dépend à l'heure, ça.
Bling bling, hein, oui.
Ah oui, bling bling, oui. C'est quand elles sont vides, ça. Ouais. Alors, on a évoqué tous ces trucs. Alors, il y a un palmarès que je suis allé chercher, parce qu'effectivement, c'est très facile de trouver des trucs là-dessus, parce que la presse et tous les sites raffolent de ce genre de trucs. Donc, il y a le palmarès des événements les plus meurtriers. Alors là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est les épidémies en premier. Alors, c'est 300 millions de morts à cause de la variole.
La grippe espagnole.
Il y en a eu énormément, la grippe espagnole. Après, on arrive dans aux histoires de famine. Alors, il y a tout le temps. Le palmarès, il est extraordinaire d'ailleurs, parce que rien ne se produit en Europe. L'Europe est un vieux continent privilégié. On dirait que c'est lié à la pauvreté, au sous-développement. La famine, c'est évident. 29 millions de morts en Chine entre 58 et 61. Hein, vive Mao.
Mais après, attendez, Jean-Pierre, il faut qu'on le remette dans le contexte, c'est proportionnel au nombre d'habitants aussi qu'il y a en Chine.
Bien sûr, tout à fait. Mais de 29 millions, il faut quand même s'en occuper.
Oui,
c'est pas mal. Oui. D'autant plus que ça peut être aussi un pays agricole. Vous savez, il y a eu des tentatives, étayer un petit peu la façon dont l'idéologie politique et la façon de nourrir les gens vont pas forcément ensemble. Il y a eu deux choses. Et pardon, c'est à peu près de la même idéologie du temps de Staline, par exemple. On a voulu considérer que la sélection naturelle ne devait pas exister puisque tous les hommes sont égaux, etc. Donc on a voulu faire ça aussi pour les semences. Hein. C'est-à-dire que l'Ukraine, qui était le grenier à blé de l'ensemble de l'Europe, est devenu complètement déficitaire parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lysenko qui tenait Staline sous son charme d'agronome et qui a décrété que justement il fallait plus sélectionner les graines. Ouais. Donc résultat, tout le monde a crevé de faim.
Exact.
Petite chose, on a essayé aussi de trouver des solutions à la famine à Pékin. Et on s'est aperçu qu'il y avait, alors je dis n'importe quoi, 50 millions de moineaux dans Pékin. Mmh. 50 millions de moineaux, ça bouffe 3 grains de blé ou de riz tous les jours. Donc ça fait un tonnage énorme. Donc on a résolu ça à la chinoise. On a donné l'ordre. Quand on a
tué les moineaux.
C'était... Oui, mais comment ? Il ne faut pas que ça coûte un rond. En leur faisant peur. Pendant 15 jours, ils ont tapé sur des gamelles. Et donc les moineaux sont morts. Et j'ai vu des images, moi, parce qu'on en était fiers de ça. Donc, c'est des images qui sont parties vers l'Occident. et des semi-remorques, enfin des vraquiers semi, qui étaient pleins de moineaux morts. Et ça en fait quelques dizaines de milliers par semi. Résultat, 15 jours après, ben, il y avait des mouches partout.
Eh oui, logique.
Et donc c'était pire. Ça, c'est une catastrophe qu'on pourrait dire naturelle, mais c'est
surnaturel.
Oui, c'est simplement les grosses mains de l'homme qui ont mis les pieds dedans. Alors, on en arrive, on continue.
Alors.
Toujours, il y a tremblement de terre. Donc, je suis désolé. C'est les plus grosses inondations, c'est en Chine en 1931. Ça n'a rien à voir. Et là, avec le régime, ne serait-ce que, enfin, sauf à détourner le cours du Yangtze. Le tremblement de terre, encore en Chine, 800 000 personnes d'un seul coup en 1556. Cyclone, c'est récent, c'est encore là-bas, enfin c'est pas en Chine, mais c'est dans l'Asie d'extrême. Au Bangladesh, 1970, 370 000 personnes meurent.
Exact.
Tsunami, alors on le connaît là, c'est toute l'Asie, 2004, 225 000 personnes. Les volcans, là maintenant on fait dans le petit, hein, on fait dans l'artisanat. Les volcans, c'est le Krakatoa, en Indonésie, 1882, 80 000 morts. Ah, là, on arrive quand même, enfin, en Europe, la canicule.
Oui.
70 000 personnes en 2003.
Ouais,
après, des trucs, alors, des avalanches, 20 000 personnes au Pérou en 1970. Un truc assez étonnant aussi, une éruption limnique.
C'est quoi, ça?
Bah, c'était les Camerounais qui ont appris que ça pouvait exister à leurs dépens. C'est-à-dire que c'est les gaz qui sont contenus, l'hymnis, je pense que ça vient de Limosa, la vase.
Ouais.
C'est les vases qui sont contenus dans les fonds des lacs. Et en 86, il y a quand même 1700 personnes qui se sont retrouvées à côté du lac, dont j'ai oublié le nom, qui se sont retrouvées mortes à cause des gaz méphitiques qui sont sortis de là. Quoi.
Bon, après, il y a toute l'histoire des... Il y a les crues torrentielles en Europe, mais ailleurs aussi. Ce qu'on a vu là au Portugal, et en Espagne notamment, là dernièrement, encore maintenant d'ailleurs. On ne sait pas si c'est naturel ou pas, parce qu'il y a la main de l'homme qui est passée par là aussi. Hein.
Ah bah, les crues, il y a le fait indéniable du réchauffement, la part peut-être à déterminer de la main de l'homme dans le réchauffement, qui est aussi indéniable, mais qui n'a pas toutes les responsabilités.
Et dans l'urbanisation aussi.
Et il y a aussi, alors complètement, l'urbanisation, c'est-à-dire que tout est de plus en plus bétonné et qu'on arrive à quantité d'eau égale d'autrefois à des crues beaucoup plus graves, puisque tout descend d'un seul coup. Il y a des crues chasse d'eau. Il n'y a plus, dans les campagnes, ce qui existait, c'est-à-dire des retenues au fond des champs, par exemple.
Mmh.
Un exemple, ça peut paraître dérisoire de parler de ça, mais les brochets ont disparu des rivières du continent, parce que les brochets se reproduisaient
dans les
inondations des champs au mois de mars.
D'accord.
Donc il y a toujours des inondations. Il n'y a plus de brochets pour y aller. Mais supposons qu'il y en ait, la femelle va répondre au plus haut de cette inondation. Elle dépose ses œufs dans l'herbe et petit à petit, normalement, l'eau redescend. Petit à petit. Là maintenant, les crues chasse d'eau, ça redescend d'un seul coup. S'il y avait eu encore quelques œufs de pondus, ils seraient restés asséchés. Alors qu'avant, ça descendait tout doucement, et les œufs donnaient des petits brochetons, des alevins, et qui descendaient au fur et à mesure que le plancton se créait, j'ai une sorte de génération spontanée, c'est pas ça, et descendait jusqu'à la rivière en une quinzaine de jours pour aller dans la rivière. Les choses prenaient leur temps, alors que là, la même quantité d'eau va descendre et en une journée et va tout inonder.
Va tout inonder. On va écouter une chanson, le groupe Almine, où on parle de la nature et des catastrophes naturelles, ou pas, avec intervention de l'homme des fois, mais souvent naturelles, avec Jean-Pierre Fleury. On se retrouve tout de suite après ça.
Fra le lote di luspera, bento chi mi incanti, sopra canti di lua là. E tu mi porti lontano, sopra l'uomo chi mi chiama. Porti su ramo, sopra l'uomo chi si spara. Vita chi mi lasci, soli in un scorno come a sognà. Vita tu chi caschi, il mio nido, gelo per amparami a curar. E tu mi ben considero per far crescere l'umanità. Non ti porti di luogo un ma luoghi mi incanti, sobriganti, sobriganti di lumertia. E tu mi inventi l'estate per amparami a festiniare. Canti le fade per amparami a via di a. Vento chi mi porti fra le rote di usperà. Vento chi mi incanti, sopra canti, sopra canti. La 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 la.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Et nous parlons des catastrophes, Jean-Pierre, avec vous, avec Jean-Pierre Flory. On a évoqué certaines catastrophes et Jean-Pierre en a cité certaines, notamment en Chine. J'en ai noté une, mais il paraît, bon, bien sûr, il n'y a plus personne pour confirmer, puis on n'a pas d'image parce que c'est dans 365 en Crète. Il y aurait eu un tsunami, paraît-il,
oui. Et
qui aurait été un, voilà, un truc monstrueux. Qui a fait des milliers de morts, paraît-il.
Et qui a lavé les pieds au Corse à ce moment-là.
Voilà, voilà. Et puis alors, plus proche de nous, Jean-Pierre, bon là c'est volcanique, hein. J'ai découvert ça aussi en cherchant, quoi, tout simplement. L'éruption du Laki, c'est en Islande, il paraît, en 1783. C'était l'éruption volcanique la plus meurtrière au monde, qui a réussi à tuer en Islande 25% de la population locale, mais aussi en Europe. Ça, je savais pas du tout. 8 juin 1783.
Alors, je pense que c'est à cause des fumées toxiques.
Fumées, fumées toxiques. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent.
Autant de monde que ça.
6 millions dans ce...
6 millions.
6 millions. Ouais, entre l'Islande et l'Europe. Et l'Europe,
oui,
c'est
non, parce que, oui, il n'y a pas 6 millions d'habitants en Islande.
Non.
Moi, j'ai vu quelque chose de très étonnant. J'ai eu la chance, peut-être déjà raconté.
Dioxyde de soude. De machin. De soufre.
Non, c'est en Islande, je suis allé à côté du volcan Eyjafjall, dans l'île de Surtsey. Surtsey, c'est au large d'une île qui est au large d'une île, etc., puisque l'Islande est une île.
Une île, oui.
Il y a une autre île, ce qui s'appelle Norman, ou un truc comme ça, et sur lequel il y a eu une des dernières éruptions volcaniques en 75, et au large de cette île est sortie une île qui s'appelle Surtsey. Et donc, je suis allé là-bas où j'ai vu justement cette catastrophe naturelle devenir, commencer à s'apaiser, puisque j'y suis allé 20 ans plus tard, on était des pionniers, on avait des autorisations spéciales, et il y avait déjà la vie qui arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait des oiseaux qui nichaient, il y avait déjà de la végétation, des choses comme ça. C'était complètement étonnant. Vous savez, c'est cette fameuse île qui s'est inspirée de Tintin, parce que je pense que l'île mystérieuse,
oui,
vous savez où il y a le champignon, là, avec Tintin. Ça a été écrit avant, mais j'avais interviewé des pêcheurs avec mon meilleur Islandais. La façon dont ils avaient été plus que surpris, parce que les gars étaient en mer et sortis devant eux, alors pas comme un champignon, mais sortis devant eux, d'abord de la fumée, ensuite les fameuses vapeurs méphitiques, et ensuite la lave qui est sortie.
Et qui a fait une île.
Qui a fait une île.
C'est comme ça que elle est habitée ou pas?
Non, c'est complètement interdit. C'est une zone complètement expérimentale. On ne sait pas combien de temps elle va tenir. Parce que ça ressemble, c'est pas fixé, c'est de la lave, on dirait de la meringue.
Ah ouais.
Donc il faut faire très. C'est tout, de la meringue noire, il faut faire très attention quand
c'est
on
marche. C'est friable alors.
Oui, on se dit si ça casse.
On s'enfonce.
On s'enfonce et on se retrouve au centre de la Terre, puisque c'est là-bas, que, c'est de là-bas qu'il faut partir,
d'après Jules Verne. Oui, ma curiosité s'arrêtera là, quoi. Alors oui, je voulais revenir sur ce que je vous ai dit, l'éruption, là, puisque on était en Islande. Ouais. Alors pendant 8 mois, il faut le savoir, le cratère, donc ce fameux volcan de Laki, va recracher du gaz sulfurique, qui s'est propagé en Angleterre, puis en Europe, dans le reste du monde. Et on parle ici de 122 millions de tonnes de dioxyde de soufre qui s'est baladé un peu partout. Voilà, bon, c'est pas bon pour la faune.
Ça fait quelques cargos et paquebots.
Ah oui, ça fait quelques... Oui,
parce que déjà, quand on voit à Ajaccio un petit paquebot, ça devient tout jaune à cause du soufre. Bon, alors, catastrophe naturelle.
Alors, après...
Bon, un petit peu d'optimisme, on a pris ça en pleine figure, mais on est assuré.
Oui,
en tout cas,
ça.
On le pense. Alors, notion de catastrophe naturelle. Pour être remboursé, il y a des choses. Il faut déjà avoir une assurance multirisque habitation. On va dire que c'est arrivé à l'habitation. Ensuite, il faut savoir que dans cette assurance multirisque, il y a des choses qu'elle prend pas en compte. Par exemple, les inondations. Alors là, j'entends les gens qui disent non, mais si c'est une inondation qui vient de chez vous, si vous avez une conduite qui pète, c'est pris.
C'est pris, oui.
Mais si c'est de l'eau qui vient de l'extérieur, c'est pas pris. Donc, il faut qu'il y ait un arrêté qui
décrète... État de catastrophe naturelle.
État de catastrophe naturelle, c'est après enquête, c'est de publier un arrêté ministériel au journal officiel. Et il faut alors, bien sûr, faire une déclaration de sinistre. Et les fonds sont des fonds de l'assurance elle-même. Des assurances.
Oui, c'est une caisse de poule.
Voilà, qui sont obligés de faire une cagnotte pour pouvoir...
Je pense que l'État doit y mettre un tout petit peu de sous aussi.
Pour les calamités agricoles, pas pour celles-là. C'est uniquement l'argent de... il peut y avoir, les gens disent, oui, mais il faut qu'il y ait tout un village qui soit sinistré. Que nenni, et fort heureusement, il faut qu'il y ait, même s'il y a un seul sinistré, il peut avoir accès au fonds de garantie. Alors c'est pour les inondations, c'est pour les glissements de terrain, les risques qui en général ne sont pas couverts. Dans le monde agricole, il y a autre chose qui s'appelle les calamités agricoles. Alors c'est un petit peu le même principe, c'est des dommages dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique. Le gel, les orages, la sécheresse, les inondations. Il faut que ce soit reconnu par un arrêté ministériel Et c'est là aussi, c'est un pot commun qui est géré par le Front National, le groupement des FNGRA. Il doit y avoir là-dedans la MSA, les organisations agricoles. Et c'est, alors là, par contre, c'est les cotisations qui rentrent en ligne de compte et l'État abonde. Là, il y a de l'argent qui vient d'être.
Mais par exemple, Jean-Pierre, vous dites ça. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites par rapport à l'état de catastrophe naturelle. On voit que Bastia et Ville-de-Pétrabouille, lorsqu'il y a eu les 3 trombes d'eau en juillet, les deux villages, les deux villes sont... Mais prenons par exemple l'érosion des plages. Vous allez sur la plaine orientale, en Corse, par exemple, et puis ça grignote. Et puis il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau, les restaurants n'existent plus. Est-ce que c'est des catastrophes naturelles, ça?
Je ne sais pas. Le problème dans la définition des catastrophes naturelles, il y a effectivement le fait qu'il faut que ce soit rapide. Subi,
c'est ce que vous disiez.
C'est subitement. Donc là, c'est pas subi.
C'est pas subitement.
Sauf que ça peut. Moi, j'ai vu la plage à d'autres endroits reculer de 10 mètres d'un seul coup, des jours de tempête. Mais enfin, là, on arrive dans des arguties juridiques. Il y a énormément d'argent en jeu. On a parlé de catastrophe naturelle, mais la catastrophe naturelle, elle peut venir de la main de Dieu. Parce qu'il y a quand même une vieille manie, quand Dieu est fâché contre les hommes, il nettoie tout à grande eau. Le déluge, par exemple.
Noé.
On se souvient bien du déluge.
Monsieur Noé.
Monsieur Noé. Alors, la date, là, problème.
Ah ouais.
2348 avant Jésus-Christ, à 5h moins le quart. J'en sais rien.
On n'y était pas.
C'est ce qui est donné par le. Ça paraît, c'est ridicule. Ça, on est d'accord.
Complet.
Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, mais n'empêche que ces choses-là, venant des États-Unis avec les créationnistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les facultés qui sont en train d'essayer de faire rentrer toute l'histoire de l'évolution à partir de l'an 2348. Ça, c'est une véritable catastrophe.
C'est une catastrophe. Voilà.
Bon, avec un gars qui était très sympa, qui s'appelle Noé, qui était, on peut dire, capitaine de réserve.
De réserve
zoologique. 600 ans, quand même, le type.
Ouais.
Donc c'était pas, c'était un gars d'expérience. Bon, très bon matelot, mais qui consomme plus que ses moteurs, parce que il aimait la div bouteille. Il embarque quand même. Alors ça, c'est assez étonnant, comme reprise à zéro, parce que le déluge a fait de morts, puisque ça a rayé tout le monde de la carte.
Bah oui, il a pris ses morts.
Alors il y avait ses trois fils. Hein, il y avait la Madame Noé, donc et il y avait Sam, Cham et Japhet et leurs femmes. Hein, tout ça s'embarque. Alors on embarque, on le sait. Il faut faire vite. Il faut construire une arche. Il faut capturer. Bon, facile. Ça aurait été très intéressant à filmer. Un couple de tirs, un couple de lions, un couple de serpents, avec des erreurs. Parfois, on sait maintenant pourquoi il n'y a pas de licorne.
Hein. Parce qu'ils ont pris deux mâles ou deux femelles.
Voilà, ils ont pris deux mâles licornes et ça n'a pas fonctionné. Et deux femelles griffons, et c'est extrêmement dommage. On sait aussi d'ailleurs qu'il y a des animaux qui ont été créés à cette occasion-là. Puisque 40 jours en mer, quand même, ça, c'est long. Alors vous avez embarqué un couple de souris, ils ont déjà des petits-enfants, les souris.
Il y a des lapins.
Hein. Et oui, et donc il faut trouver quelque chose pour ne pas être envahi par les souris. Donc Noé, paraît-il, a téléphoné, comme on peut dire, non, il ne téléphonait pas, il était en liaison directe, avec son armateur, il lui a dit, t'es créateur, moi je suis marin, trouve-moi quelque chose pour nous débarrasser des souris, et le créateur a créé les souris.
Non, les chats.
Les chats, voilà, bravo. Il y avait des immondices partout, il a créé les porcs, enfin c'est la même chose, quoi. Les porcs, porcs. Hein. Alors, il y a un autre moment aussi où le bon Dieu s'est fâché, on le sait, c'est les plaies de l'Égypte.
Les sept.
Il y en avait dix.
Dix plaies d'Égypte, pardon.
Bon, là, il y a fâcherie. Hein. Et à nouveau, alors, on fait appel à pas mal de choses. Une inondation, bien sûr. Enfin, en tout cas, catastrophe naturelle. On envoie des grenouilles.
Des grenouilles, il y en a
vachement. Ça peut paraître bizarre. Des moustiques. Ça, effectivement, c'est une alliance. On sait que les moustiques ont été inventés par le diable.
Hein. Des criquets.
Des criquets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des mouches. La grêle, qui se transforme en feu. Alors, c'était certainement un orage. Les sauterelles, tiens.
Ah, hein? Les
écrits disent « La terre fut portée dans l'obscurité. Les sauterelles recouvrirent tout, dévorèrent toutes les plantes. Il ne reste plus aucune verdure dans tout le pays de l'Égypte. »
Cela dit, Jean-Pierre, vous l'avez vu, vous l'avez filmé. Moi, je l'ai vécu en Afrique.
Je ne suis pas si vieux que ça. Hein.
Non. À cette époque. C'est vrai que invasion de sauterelles, c'est vraiment la catastrophe naturelle abominable, notamment dans des pays en Afrique ou ailleurs, partout, même ici. On l'a vu en Sardaigne il n'y a pas longtemps.
Ça nous pend au nez. Alors ça, il suffit qu'il y ait un grand coup de vent un jour qui amène tout ça, et c'est pas du tout impossible.
Ah bon? Remarquez, on a peut-être eu de la chance alors, parce que ce qui est arrivé en Sardaigne n'est pas arrivé ici à cause du vent, quoi.
Grâce au vent, mais à supposer qu'il y a eu justement un coup de libetch, de sirocco ou autre, on a ramassé ça.
Oui, et puis là, il n'y a plus de vigne, il n'y a plus rien. On parle de l'exilé.
On parle d'autre chose.
Ouais, on parle d'autre chose.
Bon, c'est du petit lait, c'est par rapport à ça.
Ouais.
Alors, il y a eu des grandes catastrophes quand même. Il y en a eu une vraie. Vous parliez du nuage de poussière de l'Islande, du tsunami de Santorin. On le retrouve justement. Ça, c'est un très beau travail d'archéologue, de géologue, etc. Ça, on peut le lire sans problème. Et puis, il y a quand même une chose qui maintenant est avérée, c'est la catastrophe qui a eu lieu il y a 66 millions d'années, 3 mois et 5 jours. C'est l'astéroïde qui est tombé du côté du Yucatan. On peut penser que ce n'était pas le seul d'ailleurs à tomber, hein. Mais n'empêche que ça a complètement tout bouleversé, on le sait, puisqu'on a énormément travaillé là-dessus. On sait que c'est la disparition d'un mode de vie qui était absolument dominant sur cette Terre, c'est-à-dire des dinosaures. Alors pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? De l'ensemble de la surface de la Terre. Alors ça s'est pas fait en une minute, hein, bien entendu, mais parce qu'il y a eu un nuage de poussière tel que le... Alors bien sûr, il y a d'abord eu un tas de choses toxiques qui sont arrivées en même temps, dues aux explosions qu'il y a pu y avoir. C'était l'équivalent de bombes thermonucléaires avec un S et autres. Et ensuite, le ciel s'est obscurci. Parce qu'il y a de la poussière qui a mis 1000 ans à retomber. Donc il n'y avait plus accès au soleil. Les dinosaures, qui sont des animaux à sang froid, donc ils sont obligés, comme les reptiles, c'était des reptiles, de se mettre au soleil pour avoir de l'énergie, la chaleur du soleil, il n'y avait plus cette chaleur, ils ont crevé.
Ils sont morts.
Ils sont morts, et il y avait déjà quelques mammifères, et là, les mammifères qui ont survécu, parce que là, ils sont thermorégulés, donc les plus petits ont gardé suffisamment d'énergie, et ils ont donné ce qu'on connaît maintenant.
C'est-à-dire que certains animaux que l'on considère comme des animaux qui viennent de la préhistoire seraient ces survivants-là, donc. Comme les rhinocéros.
Oui, bien sûr. Il y a quand même la préhistoire, c'est extrêmement récent.
Ou avant, quoi. Ces animaux-là, quoi.
Oui. Tout ça, c'est les sélacanthes, c'était dans la mer. Hein, c'est un peu différent. Je pense que la faune aquatique a moins morflé entre guillemets que la faune terrestre, aérienne ou pas. Mais elle a quand même besoin, effectivement, il fallait qu'il y ait quand même de l'oxygène, de la lumière qui rentre dans les mers. Tout ça, ça a été la catastrophe des catastrophes.
The catastrophe.
Ça peut arriver. L'histoire de l'humanité, du monde, 5 milliards d'années, ça, c'était il y a 66 millions d'années. Donc c'était hier, et au niveau des probabilités, ça peut être demain.
Après, Jean-Pierre, on va y revenir après cette chanson.
Ouais. Si on chantait quelque chose.
Ah ouais, on peut, si vous voulez chanter.
Moi, je ne sais pas, mais c'est pour guider.
Chanson à boire. On va écouter cette chanson Sous le vent, en duo, et on se retrouve tout de suite après pour voir que les catastrophes naturelles, souvent maintenant, appelées catastrophes naturelles, ben l'homme y est quand même pas mal pour quelque chose.
Ah bah oui, ça.
Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant.
Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant.
Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent.
Garou, avec bien sûr Céline Dion, et nous allons retrouver Jean-Pierre.
Naturellement vôtre. Quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
On va juste vous les rappeler parce que elles sont importantes. Les 8 plus grosses catastrophes naturelles de l'humanité, c'est celles qui ont commencé à nous fatiguer, quoi. Les inondations de 1931 en Chine, le cyclone de Bola en 70 au Pakistan, Jean-Pierre nous en parlait, la grande famine de 58 en Chine, le séisme de 1556 en Chine toujours, décidément, la grippe espagnole de 1918, le tsunami de 365 en Crète, mais on n'y était pas, l'éruption du lac Ki en 1783 en Islande et la canicule de 2003 en Europe.
Voilà, bon ben bravo, c'est un...
Non, mais vous l'avez évoqué.
Oui, c'est vrai. Alors, on va se rassurer un petit peu.
Ça respire la joie de vivre, ce que je viens de vous dire là maintenant. Allez,
vite, complètement, hein.
On repart
gonflé. On va se dire qu'en France, globalement, le risque sismique, en tout cas, est très très peu présent. Il y a un risque moyen à Nice et dans les Pyrénées.
Mais on se rappelle, on se rappelle quand même du drame de Malpassé. C'est une catastrophe naturelle ou pas?
Non, pas du tout. Pas du c'est celle de la main de l'homme. C'est-à-dire que s'il y avait la quantité de ciment dedans... La nature est un petit peu loin, parce qu'il y a souvent les exactions humaines qui font que ça peut être rien du tout. C'est le mur de votre garage qui va tomber. Là, c'était pas le mur du garage, c'était mal passé. En 1960, ça a été effectivement quelque chose de terrible. Le risque sismique négligeable, on l'a dit, mais non nul. La Corse, encore moins, puisque c'est ce qu'on appelle des aléas sismiques très faibles. Je signale d'ailleurs à nos amis journalistes qu'il faut arrêter de cultiver le pléonasme en disant secousse sismique.
Ah bon?
Si c'est sismique, c'est une secousse.
Oui.
C'est pas grave, moi c'est comme ça. Alors j'ai regardé un petit peu, le Corté 2017, 3,1 sur l'échelle ouverte de Richter. Il y en a eu d'autres.
Il y a eu la catastrophe d'Ortibourg, il y a eu des morts quand même. Ortibourg, il n'est pas très loin, il y a eu des morts. Oui, mais c'est une avalanche qui était due probablement à une petite
secousse. Il y a des glissements de terrain, c'est différent aussi.
Sont naturels.
Oui, qui sont naturels, mais bien souvent aussi, s'il y avait des gens en dessous, c'est peut-être... Je ne sais pas, après... le 19 juillet 63, il y a eu 5-6 quand même sur l'échelle de Richter. Alors pourquoi il y a... Oui, mais c'est encore très très loin tout ça, parce que échelle, c'est exponentiel. Hein,
est-ce que l'être humain, il le ressent, ça, 5,7? Oui,
tout petit peu. Oui.
Les verres sont trop chauds.
Moi, ça m'est arrivé dans un lit.
Allez.
Oui, mais
vous
pas
êtes tombé
ici.
Du lit.
Là, pas du tout, mais j'étais d'ailleurs... bref, je ne veux pas être scabreux, mais je vous assure que ça fait une sacrée secousse. Quand même.
Ah, quand même. C'était combien?
En plus, si vous n'êtes pas tout seul, c'était en Algérie il y a fort longtemps.
D'accord.
Bon, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un sismographe, moi, tout seul.
Non, mais je veux dire, c'était assez fort pour lire au centre.
Vous savez, c'était du côté de Tipaza, ça n'arrêtait pas. C'était terrible là-bas. La tectonique des plaques, on revient dessus, justement, pour se dire qu'on ne risque pas grand-chose. Puisque dans les endroits où ça bouge beaucoup, par exemple le Japon, où c'est terrible, c'est 20 cm par an que ça se...
Ça bouge.
Ça bouge, donc c'est des masses faramineuses de pierres et autres. Là, c'est dans des zones comme ici, c'est simplement 3 ou 4 mm par an. C'est pas nul.
Oui.
Et je vous ai dit, la direction, pour le moment, c'est 3 ou 4 mm par an vers le nord. C'est-à-dire qu'on repart se réamarrer au continent.
Mais Jean-Pierre, est-ce que tous les moyens que l'on a maintenant, les spécialistes, les outils qu'on a, ce qui est assez curieux, je repensais au tsunami, vous nous en parlez tout à l'heure. On arrive normalement maintenant à dire, un tsunami, on peut le prévoir, puis qu'ils ont mis des bornes un peu partout, des sismographes, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, pour prévoir. Puis en définitive, on se rend compte que ça calcule que dalle, parce que quand ça arrive très vite.
La vague est faite de 200 à l'heure.
Ouais.
Donc, on n'est pas loin de zones sismiques extrêmement importantes, comme le Maghreb, on se souvient d'Orléans-Ville, l'Italie, ça n'arrête pas, le Frioul, s'il peut y avoir un tsunami c'est la même chose que Santorin. Et ce qui rebondirait d'une côte à l'autre.
C'est pour ça que vous vous êtes pas installé en bord de mer.
Exactement, c'est ce que j'attends. S'il y a ça, j'ai les pieds dans l'eau, c'est bien. Il n'y a pas d'activité volcanique en Corse.
Non.
Mais on n'oublie pas qu'à 400 km d'ici, les éoliennes, les paris et tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Alors, tout à l'heure, vous parliez de est-ce que les hommes le ressentent? Les animaux, sans le ressentir, sans le ressentir comme nous peut-être. Nous, on le ressentirait au moment où ça se passe. Eux, ils ont une prescience, une sorte de pressentiment de la
catastrophe. Ah ouais, d'accord.
Hein, mais de toutes les catastrophes, pas simplement des. Moi, j'ai toujours entendu dire les marins que je fréquentais à Granville, qui étaient des gars qui avaient fait Terre-Neuve, ils savaient que quand il y allait y avoir une tempête, il y en a tout le temps, mais une vraie de vraie.
Oui, oui.
Eh bien, il y avait tout le temps des chiens à bord pour essayer de combattre les rats. Ben, ces chiens-là cachaient de la nourriture. Deux jours avant, ils cachaient de la nourriture. Donc c'était, on l'a dit, les abeilles virent les bourdons avant l'arrivée d'un cyclone. C'est les vieux apiculteurs de la Réunion qui le disent. Mmh. Vous avez dû remarquer que les mouettes viennent à terre avant la tempête.
C'est vrai, oui.
Il y a des choses comme ça. Alors on va arriver là au tremblement de terre, parce que maintenant on sait qu'on utilise toutes sortes de sentinelles. Il y a des ânes qui servent. On observe les ânes. On observe les serpents, les tortues, les chats.
Tu veux les tremblements de terre ?
Pour les tremblements de terre, même des vers de terre. Ah ouais. Il y a des endroits où il y a des vers de terre qui font de la météo du côté du Japon, dans des endroits à très fort risque sismique. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, qui ont été repris. Il y a un endroit qui s'appelle Hellas, en Grèce.
Pas bien sûr, non.
4e siècle avant Jésus-Christ,
oui.
tout le monde s'en va. Hein, les rats, les serpents, les scarabées, les belettes quittent la ville deux jours avant le séisme. Bon, ça fait longtemps. C'était à Messine, en 1783, la veille du tremblement de terre, tous les chiens se mettent à hurler. Un truc complètement étonnant. À la fin du 19e siècle, au Japon, les anguilles arrivent à terre parce qu'il va y avoir un tsunami. En Alaska, en 1964, les ours quittent leur tanière. Les animaux des eaux s'agitent. Enfin, il y a mille choses comme ça. 1975, les ports des porcheries industrielles en Chine, avant un tremblement de terre, les ports se mettent à se battre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils pressentent ça ? Bien sûr, c'est pas Madame Irma. C'est qu'ils ont des sens que nous, on n'a pas. Ou qu'on a de manière... On sait peut-être plus s'en servir et ils se sont peut-être atrophiés. Ces animaux-là, en tout cas, savent s'en servir. Bon, là, il y a bien sûr la perception des champs électromagnétiques. Parce que je pense qu'un séisme, ça doit changer complètement tout le magnétisme. Vous savez, les histoires de courants magnétiques qui sont tout autour de nous. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est des capacités auditives, peut-être même d'aller chercher des infrasons, des ultrasons, parce que quand les plaques de roche commencent à se fâcher et à monter de plusieurs mètres d'un seul coup, ça doit faire un sacré bruit là-dedans.
Ils sont complètement, j'allais dire, ils font corps avec la terre, donc ils doivent le ressentir plus fort que nous.
Complètement, bien sûr, c'est les vers de terre plus fort.
Oui,
et puis bon, il y a quand même la bonne vieille expression, mais qui est vraie, quand le bateau va couler, les rats quittent le navire.
Ça vient de là ?
Ah bah oui, parce que ils savent très bien que il faut partir avant que ce soit au fond.
Avant que ce soit au fond, d'accord.
Bien sûr.
Bon, bah écoutez, il y a la
gueule. C'est gay, tout ça.
Il y en a des. Oui, non, c'est une émission positive.
Ah bon?
Non, mais on a appris plein de choses. Hein. On a appris plein de choses. Bon, dans toutes ces catastrophes qui ont eu lieu, c'était certaines en 360, mais on n'était pas là, et les plus récentes, ce qui est assez étonnant, c'est que les hommes reviennent aux mêmes endroits. On se rend compte que quand il y a, par exemple, un volcan qui tue 6 millions de personnes, on revient, en définitive. Pourquoi ? Mais parce que la Terre devient fertile encore plus, et on revient s'installer là. C'est ce qui est complètement fou.
Il peut y avoir ça, mais maintenant, encore une fois, on a des satellites, et on sait que c'est avant. Vous imaginez que le type qui était paysan quelque part dans la Lituanie actuelle, ou quelque part dans les Highlands écossais, savait qu'il était en train de mourir parce qu'il y a eu un volcan qui avait craché à 5000 km de là, c'est pas du tout. Donc ils savaient pas, c'était justement... C'est pour ça aussi que les religions, toutes, se sont emparées de la chose. On va te faire peur, parce que c'est Dieu qui te fait peur, parce que Dieu montre justement qu'il est capable, avec des phénomènes naturels, en se les appropriant, il est capable de se.
Il est en colère,
de montrer sa puissance.
Bon, ben les amis, on a fait une émission, vous avez appris plein de choses. Moi, j'en ai appris plein aussi, ce qui est le but aussi de ce rendez-vous tranquille. Voilà, mais en tout cas, soyez heureux.
Oui, on va faire un effort.
On va faire un effort, voilà. Et puis dites aux gens que vous aimez, dites-leur vraiment que vous les aimez, parce que c'est important de le dire. Bon Jean-Pierre, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, et on va se quitter avec une chanson de Léo Ferré, que vous connaissez, probablement. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Ah bah oui.
On va partir avec un grand classique. Allez, passez une bonne semaine, mon beau. À bientôt.
Allez, soyez heureux, on me l'a dit.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changé de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Des soleils